Europe 1, en balade avec Jacques Attali, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est Jacques Attali qui nous emmène aujourd'hui en balade à l'école polytechnique et à l'école des mines où il fut élève, au Panthéon, au Jardin du Luxembourg, au Théâtre de l'Odéon. Et puisque nous sommes dimanche et que vous allez bientôt vous mettre à table, il va nous raconter sur le trajet son dernier livre, Histoire de l'alimentation, pourquoi nous prenons de moins en moins de temps pour déjeuner, pourquoi les repas sont de moins en moins pris en commun, pourquoi les seuls repas qui prospèrent sont les repas d'affaires. Jacques Attali nous a donné rendez-vous sur une placette, la place Jacqueline de Romilly.
Europe 1, 11h30, en balade avec Jacques Attali, Frédéric Taddeï.
Bonjour Jacques Attali.
Bonjour.
Nous voilà à place Jacqueline de Romilly, devant l'école polytechnique. C'est une placette, comme on dit, avec des cerisiers du Japon.
Des cerisiers en fleurs, là où nous parlons.
Tout rose, magnifique. Ravissant. Toute votre jeunesse
C'est un côté, c'est la séquence nostalgie, tout ça. Ma jeunesse, oui, deux années majeures de ma vie qui sont passées dans cette école polytechnique. À l'époque, c'était l'école. Et cette place était à peu près comme ça, elle s'appelait évidemment pas comme ça, elle s'appelait la place de la montagne de Sainte-Geneviève, à mon souvenir. Il n'y avait pas tous ces cafés, il y avait un seul café, qui n'est plus un café d'ailleurs aujourd'hui, qui s'appelait Chez Marie, qui était à l'angle de la rue de la montagne de Sainte-Geneviève et de la rue de l'école polytechnique, et qui était le point de ralliement. Parce qu'on était pensionnaires, fermés, on avait le droit de sortir entre 18h et 22h.
Pas plus.
Mais non, et le week-end on sortait... Dimanche midi, on rentrait dimanche soir.
Vous aviez 20 ans à l'époque.
Oui, il y en a qui faisaient le mur, pas moi, mais il y en a qui faisaient le mur. Dit-on, je ne sais pas si c'était vrai, je crois que c'est vrai. Mais quand on se faisait prendre par le mur, ça coûtait cher en termes de punition. Voilà.
Vous alliez quand même un peu au café, donc, ça me rassure.
Non, pas vraiment, c'était très sérieux. Vous savez, c'était deux années où j'ai vraiment beaucoup travaillé, comme les années précédentes et les années suivantes. Hein. Non, j'allais un peu au café. Alors, Marie avait une réputation un peu sulfureuse. On murmurait qu'elle était prostituée ou... qu'elle avait été prostituée ou qu'elle avait l'allure. Je la vois encore. Une sorte de grosse dame avec...
Vous la voyez encore dans la rue ou vous
non,
la voyez
je la vois
vous
dans souvenez. Ma tête. Il y a 50 ans, je ne sais pas. Je pense qu'elle est au ciel, qu'elle a bien mérité. Elle avait cette réputation d'avoir été ou prostituée ou mère maquerelle. En tout cas, elle entretenait ce doute auprès de ses jeunes gens éblouis et aguichés.
Vous ne sortiez pas avec l'uniforme et le bicorne quand même.
Hein. Non,
c'était l'uniforme pour les grandes occasions.
Non, on avait deux uniformes. On avait un uniforme de bidas, comme tous les soldats de France de l'époque, qui était insupportable à porter d'ailleurs, parce que c'était une laine qui grattait. On avait ça toute la journée à l'école. Et le grand uniforme, on ne le portait que pour les défilés.
C'est fou, comme j'imagine tous les détails doivent avoir changé, le nombre de cafés, le fait que ce soit des franchises souvent.
Oui, tout a changé.
Vélos qu'on voit là,
les vélos
tout orange avec des casiers, la trottinette électrique maintenant.
Oui, naturellement. Mais la place est vraiment restée identique, aucun immeuble n'a changé, même si ce n'est plus l'école polytechnique, on n'a pas enlevé encore le nom au sommet de la porte. Nous entrions par cette porte centrale.
Elle est dans l'Essonne hein, depuis la fin des années 70.
Elle est à Palaiseau.
Oui, c'est ça. Palaiseau. Et aujourd'hui, c'est le ministère de l'Enseignement.
Voilà.
Tous ces restaurants qu'on voit me font penser à votre nouveau livre, Histoire de l'alimentation, qui vient de paraître chez Fayard. J'ai trouvé drôle que vous écriviez une histoire de des histoires, parce que c'est au pluriel, de l'alimentation, alors que vous êtes réputé avaler vos repas en moins de 10 minutes. Je pense que c'est votre cas, la plupart de vos repas, ça dure moins de 10 minutes.
Je m'emploie à faire en sorte que ce ne soit pas le cas, mais c'est vrai que je mange trop vite, très vite et trop vite, et que mes médecins ou mes conseillers habituels me disent que c'est une folie. Et quand je regarde ce que j'écris, j'écris exactement le contraire, c'est-à-dire que le cœur de l'importance du repas, ce n'est pas le repas lui-même, c'est le temps qu'on y passe. Et la conversation que ça le suscite.
Voilà, et d'ailleurs, vous n'êtes pas le seul à passer de moins en moins de temps à table. Vous dites que c'est un phénomène mondial.
C'est un phénomène absolument planétaire. Il y a une réduction du temps passé à table qui n'est pas seulement une réduction du temps passé à table, c'est une réduction de la convivialité et de ce que le repas permettait. Quand on regarde l'histoire humaine depuis 5000 ans, on s'aperçoit que toute la structuration des sociétés, de la gouvernance, du politique, s'est fait auteur des repas. Les banquets des dieux, les banquets des empereurs, les banquets des rois, les banquets de toute nature ont été la forme d'organisation du politique, tant en Chine qu'en Égypte ou en Grèce ou à Rome. Et ensuite, ça a continué. On le voit, j'ai essayé de raconter ces histoires jusqu'au repas d'affaires qui est resté.
C'est le seul, encore, dites-vous, où on continue d'accorder du temps au repas.
Voilà, c'est le seul. Et encore pas de partout, puisque le repas d'affaires a disparu même dans beaucoup de sociétés. Aux États-Unis, il y en a très peu. Le repas n'est plus un symbole de pouvoir, tandis que la France est restée un îlot assez isolé par rapport à ça. On est le pays du monde qui consacre le plus de temps au repas. Mais pour autant, je crois que c'est très, très important. Et même si, pour ma part, j'ai toujours eu du mal à passer 2h30 à table, je pense que passer une heure... dans ce moment neutre et pour échanger des idées avec les autres est absolument fondamental.
Vous racontez dans ce livre, Jacques Attali, que la veille de l'invasion de l'Irak, à la Maison-Blanche, ils ont commandé des pizzas.
Oui, c'est très intéressant.
George Bush, Rumsfeld, ils ont tous mangé des pizzas.
Ils ont commandé plus de pizzas, beaucoup plus de pizzas que d'habitude, parce qu'ils étaient très nombreux, et ils ont mangé des pizzas qui devaient être catastrophiques. D'ailleurs, les États-Unis sont le premier consommateur mondial de pizzas, la France étant le deuxième avant l'Italie. Et en effet, alors que avant, les hommes de pouvoir passaient du temps à table, discutaient à table, négociaient à table, mangeaient à table. Je raconte aussi des repas comme ceux du drap d'or ou ceux d'autres moments importants de l'histoire. Le congrès de Vienne s'est joué sur la qualité du cuisinier de Talleyrand.
Oui, c'était Carême.
Monsieur Carême.
Il faut dire pour nos auditeurs, c'est vrai qu'à ce moment-là, la France est défaite. Et Talleyrand emmène son cuisinier, Carême, au congrès de Vienne et il arrive à séduire tout le monde. Tout le monde est autour de la France parce que, voilà, parce qu'on a la meilleure gastronomie.
Il a même ce mot incroyable quand Louis XVIII le convoque pour lui donner ses instructions. Il dit « Majesté, je n'ai pas besoin d'instructions, j'ai mon cuisinier.
» On va rentrer dans l'école polytechnique, enfin dans l'ancienne école polytechnique, celle que vous avez connue, où un rue Descartes... Les grilles s'ouvrent, profitons-en. On s'y retrouve dans un instant.
Jacques Attali se rappelle des souvenirs avec Frédéric Taddeï pour la suite de leur balade.
Nous voilà à l'intérieur de l'école polytechnique avec Jacques Attali. Nous sommes devant le pavillon Joffre, le pavillon Foch, dans ce que vous appelez la cour. C'était comme ça ?
C'était pas comme ça, et je dois dire que c'est devenu, je ne suis pas retourné depuis de longues années, c'est devenu moche de chez moche.
Ah, je crois que sans travaux, là.
Les bâtiments préfabriqués au milieu, cette fausse cour avec ce faux jardin misérable qui traîne au milieu, c'était pas du tout comme ça. Et une sculpture dont je n'ose dire à nos auditeurs le nom de l'auteur, de peur de lui causer du tort, parce que je trouve ça épouvantable. Mais c'était le lieu où nous habitions, et c'était vraiment un cadre très monastique.
Ce sont des chambrées. On se dit, l'école polytechnique, elle a la réputation l'X, comme on dit, la meilleure école de France. On n'imagine pas que ces gens qui auront beaucoup de pouvoir, elle a formé des présidents de la République, des prix Nobel, des grands patrons, des chercheurs. On se dit, vous étiez combien, 6, 7 par chambre ?
On était 6 par chambre.
À 20 ans, quand
même. À 20 ans, c'était très agréable. En fait, on faisait nos lits le matin, comme tout le monde. On devait être au garde à vous à l'arrivée de l'adjudant qui contrôlait que les chambres étaient propres. On avait un couvre-feu à 22h30. Cette cour était le lieu où on se promenait. On n'était pas du tout en prison, mais enfin, on ne sortait pas de là pendant toute la semaine. Je me souviens seulement qu'ici, il y a eu un incident un peu particulier. C'est que chaque année, on recevait l'école Saint-Cyr qui venait en visite.
Donc, autre école militaire.
Autre école militaire avec laquelle il y avait une rivalité assez grande. Et cette année-là, la promotion qui les recevait, qui n'est pas la mienne, mais celle d'avant, a eu l'idée de leur faire une réception particulière en leur jetant du papier toilette et des seaux d'eau et de farine au moment de leur défiler en grand uniforme dans la cour où nous sommes aujourd'hui. Ça leur a coûté, et ça nous a coûté assez cher en termes de punition.
Ah oui, je pensais que vous avez carrément dérouillé.
Non, parce que en fait, c'était une revanche du fait que notre visite chez eux, quelques semaines plus tôt, c'était très mal passé parce qu'ils avaient employé des moyens, disons, plus virils de nous déloger du lit.
Il y a eu du bizutage à Polytechnique ?
Épouvantable.
Ah oui ?
C'était épouvantable. D'ailleurs, vous me faites penser que le premier article que j'ai jamais écrit de ma vie, c'est dans la revue de l'école polytechnique, je ne sais pas s'il en reste des traces, où j'avais demandé l'interdiction de ce truc. On nous avait fait défiler, marcher en slip pendant des heures à quatre pattes dans les couloirs et les escaliers, c'était épouvantable. Ça n'avait rien de drôle ni d'amusant. C'était comme toujours, ceux qui le faisaient se vengeaient de ce qu'on leur avait fait. Un de mes souvenirs les plus importants, évidemment, c'est celui de la mort de Kennedy.
En 63.
Ça me révèle ce qui j'étais, parce qu'il y avait une séance de cinéma, je n'y étais pas. Et je travaillais. Et toute la promotion était au cinéma. Et j'étais un des seuls à écouter la radio. J'ai entendu l'annonce de la mort et je suis descendu interrompre le film pour annoncer à mes camarades de promotion la mort du président Kennedy. J'étais particulièrement studieux à ce moment-là.
Oui, mais il faut dire que, si je me souviens bien, vous étiez rentré 43e concours d'entrée et vous avez été major de Polytechnique. Vous étiez sorti de premier. Et je crois que vous avez été premier pratiquement à tous les classements.
Oui, j'étais...
Donc, vous ne faisiez que travailler.
Oui, je travaillais beaucoup, mais ce n'était pas désagréable. Encore une fois, on avait des horaires assez limités. On avait beaucoup de sport. C'était passionnant. On avait un professeur de maths génial, un immense mathématicien, Laurent Schwartz, qui m'avait pris en affection et qui nous a enseigné vraiment la frontière des mathématiques de l'époque, ce qu'il était en train de découvrir avec ses collègues.
Vous étiez premier aussi au classement militaire, parce qu'il y avait un classement militaire.
J'étais dernier au classement militaire. On avait des classements qui étaient affichés là, je vois encore où, toutes les semaines. On
nous affichait, à côté de l'entrée du pavillon Foch.
Voilà. On affichait le classement avec le résultat de la composition de la semaine. Chaque semaine, il y a une nouvelle course. Donc, j'ai tout de suite été premier. Puis, à un moment, s'est ajouté le classement militaire qui est arrivé en vrac et je suis passé second. Et comme le second est élu un major au classement militaire, ça ne m'aidait pas. C'est d'ailleurs le seul jour où j'ai eu un commentaire de mon père sur mes études. Quand il a vu que j'étais passé second, il a eu ce commentaire. Ça devait finir par arriver. Je n'ai pas eu de commentaire la semaine suivante quand je suis repassé en tête.
Et à l'époque, comment se faisait? Parce que quelque chose qui vous soucie beaucoup, ce sont les inégalités culturelles. Vous en parlez dans de nombreux livres. Et vous avez souvent fait la comparaison entre Polytechnique aujourd'hui et l'école polytechnique telle que vous l'avez connue. Vous n'êtes pas remonté jusqu'à la Révolution au moment où on la crée, où là, à l'époque, à sa création, il y a le concours d'entrée pour être conforme à l'idéal républicain. C'est gratuit. Les élèves sont même payés. Et à l'époque, quasiment la moitié des élèves étaient issus du peuple ou de la petite bourgeoisie. Et ça va changer après. C'est Napoléon qui instaure les frais d'internat. Ensuite, avec la Restauration sous Louis XVIII, on rajoute des épreuves de peinture et de dessin. Et bref, très vite, ça devient une école de la grande bourgeoisie.
Ça reste une école révolutionnaire, puisque la révolution de 1830 a été pratiquement entièrement faite par des polytechniciens. Les polytechniciens ont joué un rôle dans toutes les périodes révolutionnaires, et malheureusement aussi dans 40, où beaucoup se sont illustrés par leur collaboration honteuse avec le régime de Vichy au plus haut niveau. L'école est devenue assez vite une école où on était rémunéré comme officier, donc on n'était pas du tout aux frais de nos parents. Et quand j'y étais, donc il y a maintenant un certain nombre de décennies, dans ma classe, dans ma chambre qu'on appelait un casaire, on était 6, il y avait un fils d'ouvrier, un fils de gendarme, un fils de paysan, et moi j'étais un fils de commerçant. Il y avait quelqu'un qu'on pouvait considérer comme un grand bourgeois, un seul, ce qui a complètement changé. Ensuite, il n'y avait pas encore ce qui est aujourd'hui la majorité des fils d'ingénieurs et de professeurs. Beaucoup de lycées étaient représentés de toute la France, tandis que maintenant, deux lycées représentent la moitié des élèves de Polytechnique, ce qui n'était pas le cas à l'époque.
Eh bien, on va quitter l'école Polytechnique et puis on va remonter la rue Sainte-Geneviève.
C'est dans le 5e arrondissement qu'on retrouve Frédéric Taddeï et Jacques Attali qui continuent leur balade jusqu'à midi et demi.
Nous remontons maintenant la rue de la Montagne Sainte-Geneviève avec Jacques Attali en direction de l'église. C'est la rue que prenait Sainte-Geneviève autrefois pour aller prier au monastère qui se trouvait là à l'époque. Aujourd'hui, c'est une rue avec plein de restaurants. Vous la racontez d'ailleurs, la révolution des restaurants. À partir du moment où les premiers restaurants naissent en France, à la fin du XVIIIe siècle, et puis au XIXe, vont se répandre dans toute la capitale, c'est le moment où la bourgeoisie accède, dites-vous, au plaisir du prince.
Voilà, le plaisir du prince, c'est d'avoir son cuisinier à domicile. Et quand la bourgeoisie prend le pouvoir, peu à peu, d'ailleurs, ce n'est pas seulement en France, mais la France y joue un rôle absolument déterminant, apparaissent les restaurants.
Sur des tables individuelles.
Sur des tables individuelles, voilà.
Des auberges, des tavernes, mais on y mange mal. On ne choisit pas, d'ailleurs.
Voilà. On a un plat fixe. Tandis que là, on commence à faire des cartes, des menus. Et on voit même, à la fin du XVIIIe siècle, des cuisiniers de princes qui préfèrent quitter le service de leur prince pour s'installer comme restaurateur. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est complètement différent. Il y en a partout, de toutes sortes, de toutes natures. Il y a un métissage de la... puisqu'on voyage en mangeant.
Ah oui, c'est fou le nombre de restaurants étrangers. Je crois qu'il y a plus de restaurants étrangers à Paris aujourd'hui que de restaurants français.
Et il y a plus de restaurants asiatiques que de restaurants américains, contrairement à ce qu'on croit.
Vous racontez aussi dans ce livre, Jacques Attali, que l'industrialisation, au fond, commence avec l'alimentation.
Oui.
Vous dites en 1836, par exemple, le premier produit fabriqué en série, c'est une plaquette de chocolat.
Exactement.
Et c'est en France. Hein.
C'est en France. L'industrialisation commence à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, avec la nécessité de nourrir les armées, donc de produire en masse et de trouver des moyens de conserver. Donc on a toute une série de balbutiements de la conservation qui ont lieu en Europe, en France, en Angleterre. Et puis vous avez à côté de ça une autre forme d'industrialisation qui va apparaître aux États-Unis, où il y a très consciemment l'idée qu'il faut à tout prix que la nourriture coûte moins cher et surtout qu'on y consacre le moins possible d'argent pour pouvoir dégager de l'argent pour faire autre chose. Et très consciemment, il y a un mouvement qui va s'organiser pour cela, qui va discréditer la nourriture comme étant malsaine, même d'un point de vue religieux, péché, le plaisir est devenu un péché. Au point qu'il y a des tas de gens qui vont inventer des nourritures pures, le cornflakes par exemple, dont peu de gens savent qu'ils ont été inventés pour aider les gens à réduire leur désir sexuel.
Oui, et même pour combattre la masturbation
pour combattre
chez les jeunes.
Mais
si tous ceux qui mangent du cornflakes le
savais,
matin savaient ça.
Voilà, c'était l'objectif. Et puis ensuite, il y a un renversement, enfin un complément qui apparaît à milieu du fin du 19e siècle avec l'idée de c'est tellement mauvais qu'on ne va pas y arriver, donc il faut donner des compléments industriels qui donne du goût, et c'est Heinz avec les sauces.
Et le ketchup.
Le ketchup. Et puis ensuite, la vraie industrialisation. Peu de gens savent aussi que quand Ford invente le travail à la chaîne, il copie le travail à la chaîne qui avait déjà été inventé par les abattoirs de Chicago, par lequel passait la moitié de la viande américaine qui était
en... C'est vrai que c'est là que débute le travail à la chaîne.
Commence aux abattoirs de Chicago.
Donc là aussi, dans le but de nous alimenter, enfin pas nous à ce moment-là, plutôt les Américains, mais...
Le moins cher possible, le moins cher possible. Et c'est là qu'on va commencer donc l'industrialisation de la nourriture, puis l'industrialisation des restaurants, qui apparaît un peu plus tard, vers les années 1920-1930, mais qui vont être une autre façon d'accélérer l'industrialisation.
Et ce sera le fast-food.
Ce sera le fast-food qui est venu.
Mais au fond, donc, c'est à la fin du 19e, c'est le capitalisme américain qui va progressivement imposer ce nouveau modèle dans lequel nous sommes
exactement,
aujourd'hui.
Exactement.
Avec un temps de repas réduit, où on mange seul.
Un temps de repas de plus en plus réduit à l'échelle de la planète, au point qu'aux États-Unis, on attache tellement d'importance à Thanksgiving, non pas parce que c'est un repas important, mais c'est parce que c'est un des derniers repas de famille. Il n'y a plus le repas du dimanche. Les familles sont explosées et donc le repas a disparu complètement comme mode d'organisation sociale.
Vous êtes né la même année que Mick Jagger, que Jim Morrison, que Keith Richards, que Johnny Hallyday, que Jeanne Dutronc, que George Harrison. Comment vous avez fait pour échapper au rock, vous ?
Ah, j'ai pas du tout échappé au rock. J'ai lancé le rock à 14-15 ans, comme tout le monde. Non, j'adorais ça.
Et quand vous sortez de Polytechnique, vous avez 21 ans, vous écoutez Satisfaction ou...
Oui, absolument. Oui. Absolument. J'ai écouté Satisfaction, j'écoutais les Beatles. J'écoutais tout ça. Même si j'écoutais aussi Chopin, Mozart, Bach... qui était plus...
Alors, est-ce que vous écoutiez le grand tube de cette année-là ? Il a été chanté par votre jumeau, quelqu'un qui est né le même jour et la même année que vous, c'est Adamo. Et il chantait La Nuit. Vous vous souvenez de La Nuit ? C'est votre sortie de Polytechnique.
À l'époque,
toute la France écoute cette chanson-là.
Si je t'oublie pendant le jour, je passe mes nuits à te maudire. Quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd, lourd. La nuit, tu m'apparais immense. je tends les bras pour te saisir. Mais tu prends un malin plaisir à te jouer de mes avances la nuit. J'ai devenu fou, j'ai devenu fou. Et puis ton rire fend le noir, et je ne sais plus où chercher. Quand tout se tait, revient l'espoir, et je me reprends à t'aimer. Tantôt tu me reviens fugace, et tu m'appelles pour me narguer. Mais chaque fois mon sang se glace, ton rire vient tout effacer. La nuit, je deviens fou, je deviens fou. Le jour dissipe ton image, je ne sais où, vers celui qui te tient en cage, celui qui va me rendre fou. La nuit, je
C'était La Nuit, chantée par Adamo. On est arrivé devant l'église Saint-Étienne du Mont, qui date du XVIIe siècle. On est sur la montagne Sainte-Geneviève. Vous aimez cette église ?
J'aime beaucoup cette église, qui est vraiment un des endroits les plus magiques de Paris en termes d'intérieur, de recueillement et de ce qu'elle permet de penser à la foi et le mysticisme. Et aussi parce que il semblerait que Pascal et Racine s'y trouvent.
Ah oui, voilà. Vous avez fait une biographie de Blaise
J'ai
Pascal.
J'ai écrit une biographie de Blaise Pascal et Blaise Pascal serait enterré là, sous un des piliers.
Eh bien, entrons.
Frédéric Taddeï et Jacques Attali poursuivent leur balade dans une très belle église qui se situe sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris.
Nous sommes dans l'église Saint-Étienne du Mont, qui est célèbre pour son jubé. On est en train de passer devant. C'est la dernière église parisienne où l'on peut voir un jubé de pierre sculptée. Le jubé, c'est la tribune, la clôture qui sépare le chœur liturgique de la nef. Ça isolait les prêtres des fidèles à l'époque. Nous sommes devant, Jacques Attali.
C'est une grande beauté, une grande harmonie, une grande symétrie, une grande finesse.
Ici, on se retourne.
Ici, on se retourne. On a des grandes orgues absolument somptueuses, magnifiques, où d'ailleurs on a joué si souvent de très grandes choses ici. Et puis, c'est un lieu de recueillement. En n'étant pas chrétien, je ne viens pas y prier, mais c'est un lieu de recueillement magnifique qui m'a toujours bouleversé. Quand j'étais à Polytechnique, je suis venu ici plusieurs fois tout seul pour admirer ce lieu. Je n'avais pas remarqué que Racine et Pascal s'y trouvaient. En tout cas, peut-on croire?
Quelques restes.
Expliquez-nous.
Ben non, on a la mémoire, parce qu'ils auraient été inhumés pour une part ici dans cette église, puisqu'il y avait derrière l'église, dans l'abside, un petit cimetière. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a retrouvé des restes et de Racine et de Pascal.
C'est le père Metzinger qu'on vient d'entendre.
Le père Metzinger qui officie ici. Parce qu'en fait, cette église, je parle sous votre contrôle, mon père, était un haut lieu du jansénisme.
Tout à fait.
Et,
oui.
C'est donc parce que c'était le haut lieu du jansénisme qu'ils ont récupéré ces grands du jansénisme qui ont été bannis par Louis XIV.
C'est aussi parce que, évidemment, le quartier était haut lieu de la culture, et par la Sorbonne, par toutes les grandes écoles, et donc ce lieu a rassemblé beaucoup de monde.
Et c'est aussi dans cette église, l'église Saint-Étienne-du-Mont, que Rastignac assiste à l'enterrement du père Goriot dans le roman de Balzac.
Oui, c'est vrai.
Et alors, où serait-il aujourd'hui?
Alors, à l'abside. On va s'approcher.
De Pascal et de Racine, donc.
Tout à fait.
Sous mon souvenir, il est sous une colonne, n'est-ce pas?
Pascal, c'est un mathématicien. C'est son côté mathématicien ou sont les pensées de Pascal qui vous ont attiré vers lui, Jacques Attali? Il est mort à 39 ans, hein, il était très jeune.
Ce qui m'a attiré chez lui, c'est son côté total. C'est-à-dire qu'il était à la fois un grand mathématicien, un grand écrivain, un grand philosophe, un grand maître de la langue française, un passionné. Et sa totalité, le fait que les mathématiques ont nourri sa pensée philosophique et que sa pensée philosophique a nourri son observation du monde et son regard sur la condition humaine, c'est ça qui m'a passionné. J'avoue que c'est un homme que j'ai eu beaucoup de plaisir à suivre pendant toute sa vie et ensuite à écrire.
Voilà devant une plaque, le corps de Blaise Pascal, mort le 19 août 1662 sur cette paroisse de Saint-Étienne-du-Mont, a été inhumé près de ce pilier. Et en face, il y a les restes de Jean Racine, juste là, sur l'autre pilier.
Alors, je crois me souvenir qu'il est plus vraisemblable que Racine soit là que Pascal, parce que Racine, on a une certaine, plus grande certitude.
Oui, de fait.
Parce qu'il est mort à Port-Royal-des-Champs, comme Louis XIV détestait ces gens-là, au point qu'il a, d'ailleurs, Louis XIV a détruit le cimetière, il a même détruit le cimetière des sœurs, et même détruit le couvent des sœurs.
Le couvent de Port-Royal.
Et les restes de Sainte-Geneviève sont-ils ici?
Alors, bien sûr, ce qui fait la célébrité, c'est que cette église a recueilli à la suite de la destruction de l'abbaye Sainte-Geneviève, qui est aujourd'hui le lycée Henri IV, eh bien les restes de la tombe de Sainte-Geneviève, puisque à la Révolution,
qui avait appelé les Parisiens à résister à l'invasion des Huns.
À l'invasion, entre autres, et Sainte-Geneviève qui avait nourri les Parisiens, qui, voilà, en raison de la famine. Et nous allons célébrer l'année prochaine, en 2020, le 1600e anniversaire de sa naissance.
Je croyais que les restes avaient disparu pendant la Révolution.
Alors non, à la Révolution française, de fait, tout a été balancé dans la Seine. Mais il y avait déjà des reliques qui avaient été mises à l'abri. Et donc ici se trouve reconstitué son tombeau, oui, avec des reliques.
C'est assez beau, hein, c'est voilà. tout doré.
Donc c'est un endroit vraiment de vénération, avec les vitraux qui racontent sa vie.
Hein, elle était jeune, elle avait 28 ans, je crois. Enfin, on estime qu'elle avait 28 ans quand elle a pris la tête de la résistance.
Oui, oui. Non, en fait, elle était venue dans la famille de sa marraine, qui était très engagée, ce qu'on appelait les prévôts, donc la mairie, disons. Donc elle-même s'est beaucoup engagée pour sauver la ville, pour sauver les Parisiens, pour éviter qu'ils s'enfuient tous. Et surtout pour leur donner à manger, puisqu'à cause de la famine, donc elle avait affrété des bateaux sur la Seine pour aller chercher de la nourriture en Champagne.
C'est là pour tous les goûts, hein, dans cette.
Oui, à l'avant, la puissance des femmes qui prennent le pouvoir quand les hommes fuient. Et c'est en effet un moment où Paris commence à émerger comme une ville majeure.
Qu'on voit sur ces vitraux, j'ai toujours beaucoup aimé les vitraux, ne serait-ce que parce qu'on ne les voit que dans les églises, au fond. Hein. On ne peut pas les mettre chez soi.
Et on ne les voit pas de l'extérieur non plus, aussi bien qu'on les voit de l'intérieur. Donc.
C'était quand même une idée géniale pour faire entrer dans les églises.
C'est la bande dessinée avant l'heure.
Ouais. Merci, mon père.
Je t'en prie.
Pour la visite.
Au fil des années, Paris a bien changé, et c'est ce que remarquent dans leur balade Frédéric Taddeï et Jacques Attali.
Nous sommes place du Panthéon avec Jacques Attali, l'une des rares places de Paris sans végétation, ni arbres, ni square, ni pelouse. Si bien qu'on a maintenant rajouté quelques arbres
oui.
dans des pots.
Oui.
Vous l'avez remarqué, j'imagine que quand vous étiez sur cette montagne Sainte-Geneviève, nous sommes encore, ça n'existait pas. Hein.
Non, et je remarque que le seul magasin qu'on voit sur la place est un magasin de nourriture surgelée. qui est en même temps un snack,
et oui.
Qui renvoie
à votre livre « Histoire de l'alimentation » qui vient de paraître.
Mais c'est quand même révélateur que le seul bâtiment sur cette place si magique soit un bâtiment de nourriture surgelée.
Une place sur laquelle, on s'en souvient, a eu lieu un accident célèbre. C'est celui entre la Deux Chevaux de Bourville et la Bentley de Louis de Funès dans le Cornio.
Ah oui, en effet, on peut se souvenir de cette place par cela. Je ne me souvenais pas que c'était sur cette place, mais je vois l'accident. Oui.
Oui. Vous vous souvenez de quoi, vous, sur cette place?
J'étais pas au moment du Panthéon de François Mitterrand.
Je voulais vous poser la question, ouais. Le 20 mai 81.
Alors, le 20 mai 81, j'étais de corvée, on sait beaucoup dire. Le matin de ce jour-là...
C'est l'investiture de François Mitterrand. De François Mitterrand. Et en fin d'après-midi, il vient au Panthéon.
Voilà, on avait tout préparé ensemble avec Jacques Lang et Serge Moiti la veille. Et on ne savait d'ailleurs pas du tout ce qu'on ferait après, les uns et les autres. Et François Mitterrand avait gardé le secret sur l'émission qu'il allait nous confier. Et moi, il m'a dit, écoutez, je vais déposer des roses, mais il y a quelqu'un qui n'est pas au Panthéon et il faudrait lui déposer une rose sur sa tombe. Est-ce que vous pourriez, à la même minute que moi, la déposer une rose sur la tombe de Léon Blum? Et donc, j'étais sur cette tombe quand il était ici.
Vous allez devenir le conseiller spécial, comme on disait, voilà. de François Mitterrand. À l'époque, les conseillers n'intervenaient pas dans les émissions de débat, comme ce fut le cas, par exemple, avec Henri Guénaud, du temps de Nicolas Sarkozy. Vous continuiez de publier des livres, néanmoins.
Oui, oui. J'ai fait une ou deux émissions de radio, mais j'ai fait une émission, justement, à Europe. Mais non, on n'intervenait pas. Mais François Mitterrand avait eu la gentillesse de me laisser continuer à publier. Donc, j'ai publié à peu près un livre par an pendant toute cette période.
Vos premiers livres étaient très, très pointus. C'était vraiment des livres extrêmement intellectuels. À un moment, vous avez eu envie de parler au grand public, j'ai l'impression.
Oui, il y a eu plusieurs choses. D'abord, mes premiers livres, c'était naturellement des livres de maths. C'était mes cours à Polytechnique. C'était les résultats de mon travail. Et puis, en effet, j'ai eu envie de parler plus simplement. Je dois dire que François Mitterrand, de ce point de vue, m'a aidé parce que... Quand j'écrivais pour lui, les notes dont il était le seul lecteur, il ne s'agissait pas d'être obscur, sinon il ne lisait pas, même s'il était extrêmement intelligent, évidemment. Et donc, avoir ce lecteur imaginaire m'a beaucoup poussé à la simplicité.
Nous avons la rue Soufflot en face de nous. À gauche, il y a l'hôtel des grands hommes qui donne sur la place du Panthéon. Hôtel des grands hommes où vivait André Breton juste après la Première Guerre mondiale. C'est là qu'il aurait inventé l'écriture automatique avec Philippe Soupeau.
C'est un hôtel que je connais aussi parce que j'ai été amené par le hasard de la vie à passer une nuit ici blanche à conseiller et aider un candidat à l'agrégation de droit. Puisque les candidats à l'agrégation de droit devaient, sur un sujet, plancher pendant une nuit. Ils avaient le droit de se faire assister par un certain nombre de gens. Et j'avais été appelé par quelqu'un qui a d'ailleurs eu l'agrégation.
Vous étiez jeune à l'époque.
Très jeune,
étudiant.
Oui. Très jeune.
Donc François Mitterrand n'a pas été le premier candidat dont vous avez été le conseiller.
Oui, non, on peut dire ça comme ça.
Est-ce que l'histoire a retenu le nom de celui-ci?
Non, 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 pas vraiment.
Parce que c'était à l'hôtel des grands hommes, on aurait pu le penser.
Non, ça a été devenu, il est devenu un excellent professeur de droit, mais rien de particulier.
Alors, comme vous n'étiez pas là le 20 mai 1981, sur cette place du Panthéon, ni derrière Mitterrand, dans la rue Soufflot, je vais vous faire écouter la chanson qu'on a tous entendue ce jour-là, c'était la Marseillaise de Berlioz, hein, interprétée par Placido Domingo et Daniel Barenboim. C'est quand il est ressorti du Panthéon. À l'entrée, c'était l'hymne à la joie de Beethoven. Et puis, quand il est ressorti, on a entendu cette Marseillaise de Berlioz, dont certains vont tout de suite se souvenir. Passarmi si poi io, avremo la caio. C'était La Marseillaise de Berlioz par Placido Domingo et Daniel Barenboim. Vous aviez été consulté sur le choix des musiques qu'on entendait ce jour-là,
Jacques Attali ? On en avait parlé la veille tous ensemble, mais ça s'était imposé. C'était l'hymne européen et l'hymne national, ça s'imposait.
Eh bien, on va rentrer dans le Panthéon.
Avec plaisir.
C'est dans un bâtiment central du quartier latin, dans le 5e arrondissement, qu'on retrouve Frédéric Taddeï et Jacques Attali.
Nous sommes dans le Panthéon avec Jacques Attali, le Panthéon où sont inhumés Voltaire, Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau, Émile Zola, Jean Jaurès, Pierre et Marie Curie, plus récemment André Malraux, Alexandre Dumas et Simone Veil. C'est elle que vous souhaitiez...
Oui, j'aurais souhaité y voir quelqu'un qui n'y est pas, qui est... Diderot, qui à mon avis avait toute sa place, mais que la haine que lui a vouée tout le 19e siècle a empêché de mettre ici avec Voltaire et Rousseau, alors qu'il était aussi un grand géant. Mais évidemment, aujourd'hui, celle qu'il faut voir ici et que je n'ai encore pas vue ici, c'est Simone Veil, parce que à la fois c'était une amie, une très grande dame, une femme magnifique dont on a tout dit et qui, en étant ici, avec Antoine, qui était un être délicieux, son mari, incarne véritablement la France dans sa diversité, dans sa multiplicité, dans sa grandeur. Et ce lieu est aussi un lieu pédagogique. Nous sommes là, on voit beaucoup d'enfants qui sont là. Et qui...
Oui, devant le monument à la gloire de la Convention nationale.
Voilà. Donc cette pédagogie qui fait qu'il faut qu'il y ait aussi des grands hommes et des grandes femmes, des grandes personnes.
Là, il y a la mémoire du capitaine Guynemer, derrière nous, la mémoire de Saint-Exupéry.
Ça renvoie à des gens qui servent de modèles. On a besoin, dans une nation, de constituer des héros qui structurent la pensée commune. Le creuset d'une nation, c'est un projet, bien sûr, mais c'est aussi une histoire. Et l'histoire se nourrit non seulement de faits modestes, comme ceux que j'aime à décrire dans mes livres, mais aussi de grands hommes et de grandes femmes qui, par leur légende personnelle, portent l'histoire d'un pays. Et Simone Veil l'incarne merveilleusement, cette femme venue d'un milieu petit bourgeois provincial qui, par les malheurs du temps et de la désignation comme juive, a vécu le pire absolu dans sa prime jeunesse, pour ensuite se redresser, mener une grande vie de grande dame que la France lui a permis. Donc c'est à la fois à sa gloire à elle et à la gloire de la France qui a permis à cette femme de l'incarner. C'est d'ailleurs ce que je pense souvent quand on parle de l'affaire Dreyfus.
Là, on est ressorti et on re-rentre au sous-sol. On est passé devant... ici repose le cœur de Léon Gambetta. Et nous voilà dans la crypte, enfin vers la crypte.
Je parlais de l'affaire Dreyfus parce qu'on cite souvent l'affaire Dreyfus comme révélatrice de l'antisémitisme français, mais pour moi, elle est plutôt révélatrice de l'anti-antisémitisme.
Oui, je suis d'accord avec vous. J'ai toujours pensé qu'en Europe, un pays dont la moitié de la population prenait fait et cause pour un juif accusé de trahison.
Accusé de trahison pour l'Allemagne, avec des preuves extrêmement fortes, qui à l'époque, on ne savait pas que c'était des faux, c'est vraiment magnifique. Quoi. Donc la France, je crois, peut s'enorgueillir de sa conduite dans cette affaire.
Là, on passe devant Voltaire. C'est là où il y a beaucoup de jeunes gens et d'adolescents et de leurs professeurs.
C'est vraiment un lieu où il faut emmener les enfants au moins aussi souvent qu'à Euro Disney.
Ici, il repose Jean Moulin, André Malraux, René Cassin, Jean Monnet et Simone Veil, ainsi que son mari Antoine Veil.
C'est vraiment tout ce qui a fait la grandeur des choix de la France entre le moment de la guerre. Ces choix si difficiles et si évidents pour certains.
Juste à côté, il y a l'abbé Grégoire, Condorcet, Marie Curie, Pierre Curie.
Marie Curie, une des rares femmes à se trouver ici. J'incite vraiment tout le monde à venir ici le plus souvent possible et à en profiter pour, avant de venir, relire les biographies de tous ces personnages et connaître leur histoire. On s'aperçoit qu'elles sont faites toujours de beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'entêtement. Geneviève de Gaulle, une femme extraordinaire qui doit sa grandeur non pas à son nom, mais à ce qu'elle était en elle-même.
Elle est avec Jean Zay, avec Germaine Tillon, avec Pierre Brossolette.
Tous des gens qui ont été des victimes de la barbarie nazie et de leurs alliés collabos. Je dis souvent que pour moi, l'histoire, c'est de... J'ai deux maîtres à penser pour la comprendre. C'est Marx parce qu'il donne les lois de longue durée, et Shakespeare parce qu'il indique le rôle des passions humaines. Et ici, on est là où se trouvent des gens qui, par leur force individuelle, ont pu jouer un rôle dans une bifurcation que les grandes tendances lourdes n'imposaient pas. C'est là où on se rend compte que la volonté de quelques-uns, ceux qui sont là et beaucoup d'autres, peut aider à aller vers le bien.
Aider, mais ça ne suffit pas.
Aider, mais ça ne suffit pas.
Il faut quand même avoir quelques divisions.
Et ça vaut mieux.
Des avions, des tanks.
Ça vaut mieux parfois, oui, ça vaut mieux. En général, ça vaut mieux. Pascal disait d'ailleurs, je trouve un des meilleurs résumés, c'est, il était donc janséniste et il croyait beaucoup à la grâce divine, mais en même temps, il avait une très jolie métaphore. Il disait au fond, le destin, c'est important, mais il n'est pas déterminant. Prenons l'exemple d'un paysan. Un paysan, il a, pour réussir à avoir une bonne récolte, il faut une terre qui soit fertile, il faut la pluie et il faut qu'il travaille. La terre, c'est ce qui est donné d'avance. La pluie, c'est le caprice ou la grâce divine. Mais s'il y a la grâce divine et les dons, mais qu'il n'y a pas de travail, ben, ça ne marche pas. Donc il faut les trois. On dirait aujourd'hui la chance, l'héritage social et la volonté.
Il y a beaucoup d'enfants là.
Beaucoup, vous dites beaucoup, vous êtes généreux en disant ça. Il y a quelques enfants, une ou deux classes.
Ce qui est drôle, c'est qu'ils virevoltent. Oui. Ils ne sont pas dans le
silence. Ouais.
Que casonnerait un cimetière. Là, ils sont...
Non, c'est plutôt gai comme endroit. Et vraiment, je trouve que c'est... Je regrette... Monsieur... Combien il y a d'enfants qui viennent ici par an ?
Il y a près de 20% de la fréquentation qui est de scolaire, donc près de 20% des 870 000 visiteurs de l'année dernière, en tout cas.
Est-ce qu'on pourrait espérer que ce soit non pas 20% des visiteurs qui viennent, mais 20% des enfants des écoles qui viennent ?
On pourrait espérer que ce soit 100% des écoles qui viennent.
Et je crois que ce serait vraiment...
Oui, mais ça, pour là, si ça devenait une espèce de passage obligé, ils seraient peut-être moins heureux, moins joyeux quand ils viennent. Je me méfie toujours des choses qu'on rend obligatoires, en croyant bien.
Oui, mais enfin, moi, j'ai appris des mathématiques de façon obligatoire et je ne m'en plains pas. Et j'ai fait de la musique de façon obligatoire et je ne m'en plains pas. Donc, il faut aussi savoir découvrir par la contrainte des choses qui ensuite deviennent voulues.
Il y a des événements ici au Panthéon
Oui, le monument est un monument vivant. Tous les jours, il se passe quelque chose, des visites, des animations, des concerts, des colloques, des expositions, bientôt une exposition sur la langue des signes. Toute l'histoire de cette langue, la conquête par les personnes sourdes de cette langue, comment elle s'est diffusée, propagée à travers le monde, et ce que ça veut dire en termes de culture aujourd'hui que cette langue des signes.
Vous y connaissez en langue des signes,
non,
Jacques Attali ?
Pas du tout.
Merci,
monsieur.
Merci de vos renseignements. On se retrouve juste après les infos avec Jacques Attali. On continue notre balade.
Europe 1, en balade avec Jacques Attali. Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Jacques Attali. Nous sommes allés à Polytechnique, où il était élève, à l'église Saint-Étienne-du-Mont, au Panthéon. Nous voilà devant l'école des mines, sa façade un peu austère. On est au 60 boulevard Saint-Michel, avec les traces encore sur la façade du bombardement de Paris du 20 janvier 1918. C'était combat de la libération de Paris en août 44. Il y a des traces de balles. Une école que vous avez faite juste après Polytechnique.
Oui, enfin, ce quartier m'intéresse particulièrement parce que vraiment, c'est un... concentration de savoir depuis toujours, hein. Depuis le XIIe siècle, l'université est là. C'est là où Diderot a étudié. C'est là où tous les grands penseurs français ont travaillé. Il y a une concentration sur ces kilomètres carrés qui va de l'école polytechnique au lycée Henri IV, à l'Odéon, l'école des mines, la Sorbonne, tout ça. C'est un carré magique où toute l'intelligence française a s'est structurée. Là, d'abord l'intelligence religieuse, puis l'intelligence laïque, scientifique. Et en effet, j'ai été étudiant dans ce quartier pendant de longues années, à la fois à l'école polytechnique, puis ensuite à l'école des mines où j'étais étudiant en même temps que j'étais étudiant à Sciences Po, parce que je faisais les deux écoles en même temps.
Oui, et puis ensuite l'ENA.
Et ensuite l'ENA, oui. Alors, je suis, c'était la tradition que les premiers sortis de l'école des polytechniques entrent à l'école des mines. Donc, j'ai suivi cette tradition tout en sachant que j'allais y échapper puisque je faisais Sciences Po pour préparer l'ENA en même temps. Mais quand même, je venais d'une façon assez dispersée suivre les cours à l'école des mines.
Voilà. Alors, c'est drôle parce que l'architecture, ça ressemble assez à mon école primaire, en fait.
Oui,
c'est l'école typique de la Troisième République.
C'est ça, ce n'est pas un bâtiment majestueux. Et cette école était vraiment le cœur de la préparation des ingénieurs français. On y apprenait vraiment la rigueur du métier d'ingénieur, le sérieux, le pragmatisme.
Un métier que vous n'avez jamais pratiqué, au fond ?
Absolument jamais. Des rares choses que j'ai fait dans cette école, en dehors de suivre quelques cours, c'est de faire un stage de mineur de fond. Je suis descendu pas très longtemps, mais pendant une semaine. Donc, pris l'ascenseur, descendre.
Ça laisse des souvenirs. Hein.
Oui, ramper dans des tuyaux qui faisaient, je crois, même pas un mètre de... puisqu'on pouvait pas se tenir, même pas se tenir à quatre pattes à peine. Et j'ai vu la vie de ces gens-là. Je suis resté une semaine. Je devais rester 15 jours, mais j'ai pas tenu. Je suis resté qu'une semaine. C'était trop dur.
Je me disais, on parlait tout à l'heure des fast-food. Je me disais que ça aurait pu être une invention d'ingénieur, les fast-food, ces restaurants standardisés.
D'une certaine façon, ça a été une invention de gens qui sont conduits. Vraiment, vous avez raison, un ingénieur. Quand le vrai inventeur de McDo apparaît, qui n'est pas les frères McDo qui sont fait piquer leur nom, d'ailleurs, par un monsieur.
Ils l'ont acheté. Vous savez, Ray Kroc.
Et monsieur Kroc a acheté un monsieur. McDo frère, le nom, c'est lui qui en a fait vraiment un truc industriel. Vraiment, en oubliant que c'était de la nourriture volontairement pour en faire une technique.
Mais c'est l'idée, au fond, c'est de faire des restaurants sur le modèle de la production en série, donc des recettes standardisées, on ne s'attarde pas,
oui.
Ce n'est pas un lieu de conversation.
C'est ça.
Au fond, le fast-food, c'est une sorte de résumé de votre livre, d'histoire de l'alimentation.
L'accélération au XXe siècle d'un long processus qui est un processus d'industrialisation de l'alimentation et qui s'accélère au XXe, à la fois parce que toutes les techniques qui ont été préparées progressivement au XIXe siècle de lyophilisation, de réfrigération, de transport en série, etc., deviennent disponibles, mais aussi parce qu'il y a la croissance démographique qui va rendre absolument nécessaire une production en série des produits agricoles. Donc le fast-food s'inscrit dans cette société où chaque minute compte. Et évidemment, le repas est un ennemi du capitalisme, puisque le repas, c'est à la fois quelque chose qui coûte cher, donc il faut que ça coûte le moins cher possible, et que ça prend du temps qui est pris au travail. Donc le capitalisme a tout intérêt à maîtriser, laminer, dominer, écraser, réduire à néant le repas.
Mais en même temps, du temps où, avant le capitalisme, quand on vivait dans des empires ou sous l'ordre religieux, vous avez écrit de nombreux livres sur ce sujet, les repas étaient très codifiés aussi. On ne pouvait pas manger avec n'importe qui. Il y avait des interdits alimentaires qui étaient souvent, dites-vous d'ailleurs, les mêmes liés à des interdits sexuels.
Exactement. Oui, non, c'était... La nourriture et la sexualité sont extrêmement liées. La nourriture est aphrodisiaque ou pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qui relient la nourriture à la sexualité. Les interdits religieux sont très largement liés aux interdits sexuels, les rapports avec les femmes dans certaines périodes, etc. Les repas, on ne pouvait pas manger avec n'importe qui. Les dieux mangeaient avec les dieux, certains hommes avaient le droit de manger avec les dieux, certains hommes pouvaient manger ensemble. Et c'est vrai dans toutes les civilisations. On trouve ça en Chine, en Amérique précolombienne, en Afrique, chez les Grecs, chez les Mésopotamiens. Enfin, il y a une extrêmement grande permanence de cette hiérarchisation du repas qui est le lieu véritablement de constitution du pouvoir. Le pouvoir se constitue autour du repas, ceux qui mangent ensemble gouvernent ensemble, et ce qui existe aujourd'hui sous forme de club, de gens qui dînent ensemble parce que c'est important de dîner ensemble, ça existait sous forme extrêmement organisée dans toutes les sociétés, avec un paroxysme qui est le repas de Louis XIV qui en fait vraiment un sommet où il dîne tout seul, où des jeunes dînent tout seul pour montrer son pouvoir et qui vraiment représente le paroxysme du pouvoir qui s'incarne à table. Ensuite, le pouvoir ne s'incarnera plus à table. D'abord parce que le pouvoir n'est plus au niveau du pouvoir politique. Il passe dans le pouvoir économique qui, lui, n'a pas besoin de la table. Il se débarrasse de la table
Oui, c'est vrai, le capitalisme, au fond, n'a plus besoin de lieux.
Il n'a plus besoin de lieux, il est partout. Et puis,
c'est pour ça qu'on ne sait pas quand les gens veulent faire la révolution, mais ils vont prendre quoi comme bâtiment ?
Ben, c'est très intéressant parce que ça nous renvoie à ce qui se passe aujourd'hui en France. Les gens ne passent plus de temps à parler entre eux parce qu'ils passent plus de temps à table. Donc, ils inventent la révolution pour passer du temps ensemble.
Une révolution que vous avez très souvent annoncée.
Oui,
vous avez dit que ça finirait comme ça. Alors, ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui.
La rage et la colère sont très permanents des prédictions que je fais depuis longtemps. Et le fait que celle s'incarne aujourd'hui dans un désir de se retrouver
sur des ronds-points avec des merguez et des brochettes,
ça renvoie très profondément à cette demande de temps réel passé ensemble qui ne peut être qu'un temps de repas, parce que le repas, c'est par nature le temps qu'on doit et qu'on peut passer ensemble. On va aussi ressurgir autrement, d'une façon plus polie, par les repas républicains, les repas de voisins, qui est battu en brèche par notre société qui détruit. Il n'y a plus de salle à manger dans les immeubles modernes. De plus en plus même, on voit apparaître des appartements sans cuisine. Parce qu'on ne va plus cuisiner, on va téléphoner pour faire livrer les repas, ou on va simplement avoir un endroit pour réchauffer les choses, mais on ne cuisera plus. Ce qui permet de gagner de la place, en tout cas dans les endroits où la densité est stratégique.
On va traverser le jardin du Luxembourg, il est juste à côté, profitons-en. Vous avez dû le traverser souvent.
Souvent, très souvent, oui.
Jacques Attali emmène à présent Frédéric Taddeï dans l'un de ses jardins préférés de Paris.
Le jardin du Luxembourg s'étend à présent sous nos yeux. Nous sommes en train de le traverser avec Jacques Attali. Il a été créé par Marie Médicis, mais il appartient aujourd'hui au Sénat. On peut y jouer au tennis, au basket, y faire des arts martiaux, y jouer aux échecs. Vous jouiez aux échecs dans le jardin du Luxembourg ?
Non, mais me promener beaucoup, 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 très souvent ici. Et encore aujourd'hui, c'est un des plus beaux endroits de Paris, non seulement parce que ça renvoie à l'histoire de France. Le palais du Luxembourg était un palais royal où se sont jouées bien des scènes de l'histoire de France.
Des scènes de la littérature célèbre aussi, c'est là que Marius et Cosette se rencontrent dans Les Misérables.
Dans ce jardin, oui, en effet. C'est un lieu qui a su garder à la fois sa majesté, telle qu'elle avait été conçue par les Italiens qui l'ont construit, que se protéger de son environnement urbain. C'est un endroit heureux, c'est un endroit gai, c'est un endroit serein. C'est curieux d'ailleurs parce que c'est un endroit qui, à ma connaissance, n'a jamais été pillé, massacré. Ça n'a jamais été un lieu de manifestation, de grands débats. C'est un endroit qui peut considérer comme un endroit serein. Il n'est gâché que par l'horrible tour Montparnasse.
Oui, qu'on voit très fort. Hein. On voit la tour Eiffel.
On voit la tour Eiffel.
La côté plus discrète, plus loin. Plus discrète. La tour Montparnasse est très, très présente.
Qui n'est belle que quand on est au dernier étage, parce qu'on ne la voit pas.
Histoire de l'alimentation, votre dernier livre, c'est un livre d'histoire globale. C'est devenu un terme à la mode. Aujourd'hui, on parle d'histoire globale. Ce serait une invention anglo-saxonne. Mais au fond, vous avez toujours fait des livres d'histoire globale.
Oui, beaucoup de choses.
Votre histoire de la musique date de tout début des années 80. Votre histoire de la propriété.
Oui, l'histoire du temps, l'histoire de la propriété, l'histoire de la musique, l'histoire de
la médecine, aux histoires de la mer qui sont sorties il y a quelques années. Au fond, vous avez toujours eu envie de raconter l'histoire, mais une histoire mondiale.
Voilà, j'ai toujours pensé qu'on ne pouvait comprendre l'avenir qu'en comprenant le passé, et que condition d'en trouver quelques lois ou quelques constantes, ou en tout cas de s'en nourrir, et que ça n'a de sens que si c'est global, si c'est vraiment planétaire, parce que les interdépendances sont extrêmes, et en matière de nourriture plus encore, puisque dès l'Antiquité la plus ancienne, c'est-à-dire dès il y a 500 000 ans, les hommes voyagent, bougent énormément, se nourrissent des inventions, des découvertes et des plantes et des animaux venus d'ailleurs. Et donc, il y a une globalité de l'alimentation qui annonce la globalisation.
Et comme souvent dans vos livres d'histoire globale, d'ailleurs, on a l'impression que ça fait une boucle. Aujourd'hui, on mange seul, souvent, on mange debout, on mange n'importe où, on mange à n'importe quel moment, on grignote.
Oui, comme les nomades d'il y a 10 000 ans.
Comme les chasseurs-cueilleurs du temps de la préhistoire.
Oui, c'est une constante que je retrouve sans pour autant la chercher. C'est mon travail, c'est le retour du nomadisme, non pas idéologique, non pas voulu pour moi. Je ne fais pas, je suis pas un chantre de ce nomadisme, mais je retrouve.
Le terme objet nomade, on vous le doit d'ailleurs.
Oui, j'ai inventé ça dans les années, début des années 80, avant même que le téléphone mobile n'apparaisse. Mais la nourriture elle-même n'est sédentaire qu'à partir du moment où apparaît l'agriculture et l'élevage. Toutes deux inventions de nomades. Et très vite, les hommes recommencent à bouger. Et aujourd'hui, plus que jamais, la nourriture est le symbole de ce qu'on vit de plus en plus en mouvement et qu'on mange, entre autres. La nourriture devrait être un lieu ultime de sédentarité. Elle est, elle aussi, rejointe par le mouvement. L'invention du sandwich au XVIIe siècle n'est pas elle-même déterminante, puisqu'il y en avait avant, mais elle marque quand même le moment où, progressivement, on va manger debout de plus en plus. Donc là, en effet...
Bonjour,
monsieur. Voilà, quelqu'un... Un jogger qui passe en criant mon nom. Il aurait pu dire monsieur, ça aurait été plus aimable, mais bon.
C'est drôle parce qu'à la fois, vous avez, et on l'a bien vu avec Polytechnique, avec l'École des Mines, avec l'ENA, vous avez un côté premier de la classe, Jacques Attali. Et pourtant, vous avez eu souvent des amis très, très proches qui étaient des artistes, parfois même des cancres comme Coluche.
Non, mes meilleurs amis sont bac moins 5.
Ça, c'est, voilà, c'est ça.
Parce que les bacs plus 5, 6, 7, on ne peut pas faire de catégorie, mais ils sont souvent très conformistes ou des perroquets, mais il ne faut pas faire de catégorie. On ne peut pas être un prix Nobel de physique si on n'a pas fait beaucoup d'études, même si j'ai connu des prix Nobel de physique qui étaient des
autodidactes. Mais ça n'a pas dû se passer très bien avec Coluche quand même. Première rencontre. Il devait, a priori, vous détester.
Première rencontre, on s'est engueulé. Il m'a traité de menteur, moi aussi. Et dans la même soirée, ça s'est terminé par un vrai coup de foudre. Ce que racontaient ceux qui ont assisté à ce dîner chez France Gall et Michel Berger. Et on est devenu très vite, parce qu'il était très curieux, très intelligent, très soucieux de comprendre, extraordinairement drôle, évidemment, ça va sans dire. Et on s'est adoré tout de suite, quoi.
Et Barbara, parce que vous avez écrit une chanson pour Barbara.
Barbara est venue me voir à l'Élysée, tout à fait au début, très, très discrètement, pour me demander de l'aider à aller dans les prisons voir les malades du sida. Ce que j'ai fait contre l'avis du ministre de l'époque, d'ailleurs. Et on est devenus très amis, très proches. Et elle passait son temps à me dire, écris-moi des chansons. T'es fou, t'écris tes chansons toi-même, t'as besoin de personne. Et puis elle a insisté, je l'ai fait, ma grande joie, elle a...
Sur une cantate de Schubert, c'est ça ?
C'est ça.
Et c'est une chanson sur une overdose.
Oui, ça m'est venu comme ça. Hein. C'est une inspiration littéraire qui m'est venue comme ça. Il n'y a absolument rien, ni de biographique, ni d'autobiographique, ni de rien. C'est vraiment une inspiration.
On va l'écouter. Elle s'intitule Colline.
Colline.
Musique de Schubert, paroles de Jacques Attali, interprétée par Barbara.
Colline. J'entends ton rire dans mes rêves. Sur la pierre, il y aura mousse. Sans que ta voix en moi ne s'achève. Colline douce, douce, mais devenue arbre sans sève. Je ne saurais quelle foule t'enlève. Pour chercher moisson là où rien ne pousse. En rêvant d'un ange qui t'offrirait une rose, tu courais légère, loin des dangers, overdose. Tu aimais, oiseau sage, vivre liberté, et tu savais, oiseau ivre, en sol d'hiver. Colline, ô ma douce, un jour il est venu l'ange, ses yeux brumes, sa voix brève, ton fasciné, douceurs étranges, et sans comprendre, j'ai vu se ternir tes aubes claires, j'ai vu. Sans t'entendre tes douceurs devenir colère, tu as suivi l'ange, t'as-t-il offert une rose et toi.
C'était Colline, interprétée par Barbara. Et nous voilà face au Théâtre de l'Odéon. On s'y retrouve juste après ça.
Jusqu'à midi et demi, vous êtes en balade avec Frédéric Taddeï et Jacques Attali.
Et nous sommes à présent sur la place de l'Odéon, face au Théâtre de l'Odéon, aujourd'hui le Théâtre de l'Europe, où se joue actuellement la trilogie de la vengeance, texte et mise en scène de Simon Stone. Vous avez vous-même écrit des pièces, Jacques Attali.
J'ai eu le privilège d'être joué, oui. Trois de mes pièces ont été jouées dans des théâtres parisiens. Et j'ai une passion pour le théâtre. J'adore écrire pour le théâtre. J'adore tout ce qui est spectacle vivant. Je viens d'ailleurs de faire une mise en scène d'opéra, mais il n'y a rien de plus beau que le spectacle vivant. Et ça complète bien ce voyage qu'on a fait dans le 5e, dans cet arrondissement où il y a toutes les dimensions de la grandeur de la France, les grands hommes, la science, les ingénieurs, la foi avec Pascal et Racine, et puis la nourriture, parce que de l'autre côté de la place, sur la même place, il y a un restaurant très célèbre.
La Méditerranée,
très célèbre parce que...
Grand restaurant de poisson.
Grand restaurant de poisson, mais aussi grand restaurant de sénateurs.
Bien sûr, le Sénat est juste à côté.
Et s'il y a des gens qui vont garder, après tout le monde, l'habitude de passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à table, ce sont les sénateurs. Leurs repas sont interminables, il se joue beaucoup de choses en politique. Et si vous regardez qui monte dans les petits salons discrets de la Méditerranée, par la porte du côté... Vous avez un peu idée de ce qui se noue comme complot plus ou moins anecdotique ou plus ou moins sérieux. Aujourd'hui, c'est moins sérieux qu'anecdotique.
Mais un jour, je me souviens, vous m'aviez raconté qu'au fond, la plupart du temps, vous étiez le conseiller spécial de François Mitterrand à l'Élysée. La plupart de vos repas à l'époque consistaient, on parlait de nomination. Vous m'aviez dit, au fond, l'essentiel de la vie politique, en tout cas pour ceux qui sont au pouvoir, ça consiste à nommer des gens. Et ça vous ennuyait terriblement.
Oui, c'est l'essentiel du pouvoir. Pas forcément au moment des repas, mais c'était l'essentiel du travail. Même de sa façon, aujourd'hui, c'est plus encore parce que le pouvoir politique a tellement perdu de pouvoir qu'il a passé aux mains du marché, des entreprises, aux mains
ou de l'Europe, ou des
départements, des régions. Enfin, beaucoup de pouvoirs sont... Le pouvoir de nommer de plus en plus réduit, d'ailleurs, parce que le pouvoir politique nomme de moins en moins de gens. Mais les repas étaient au contraire un moment très serein. François Mitterrand adorait déjeuner, et j'étais très souvent invité à ces déjeuners avec des gens qui n'avaient rien à voir. Alors, beaucoup d'artistes, on parlait de Coluche tout à l'heure. Il a invité Coluche à déjeuner plusieurs fois à l'Élysée. Coluche venait déjeuner avec moi aussi à l'Élysée.
Et comment ça s'était passé entre François Mitterrand et Coluche ?
Ah, très bien, je les avais fait ce...
C'était donc après que Coluche ait renoncé à se
présenter. Coluche, c'est un mythe que je passe mon temps à répéter avec la certitude de celui qui l'a vécu. Mais les mythes s'installent parfois comme une vérité. Au lendemain du dîner dont je vous ai raconté, Coluche est venu me voir chez moi un dimanche matin, je me souviens très bien. C'était en 80, il m'a dit, je ne me présenterai pas, d'ailleurs j'ai zéro signature, contrairement à ce que je laisse croire, je ne me présenterai pas, et je vais t'aider, et mon objectif c'est de faire battre Giscard. Donc dès le début, je l'avais tout de suite dit à François Mitterrand, alors il a laissé croire à sa candidature, beaucoup de gens se sont vantés ensuite d'être intervenus pour ceci, cela.
Et vous-même, on a dit que vous étiez venu, vous étiez missionné par Mitterrand pour lui faire renoncer.
C'est absurde, j'étais venu par curiosité parce que deux amis qui étaient France Gall et Michel Berger m'avaient proposé de les rencontrer. J'en ai prévenu François Mitterrand une heure avant de le dîner, il ne m'a rien demandé et je ne me serais pas permis de demander à Coluche de quoi que ce soit. Non, non.
Et alors, entre Coluche et François Mitterrand, quand ils se rencontrent
Ils se sont rencontrés d'abord chez moi et ça s'est très bien passé. Mitterrand adorait rire, donc Coluche le faisait beaucoup rire. Et puis Coluche était très impressionné. François Mitterrand avait eu un geste incroyable, c'est que le jour de son élection, le lendemain matin, donc le lendemain du 10 mai, la radio avait annoncé que, entre autres nouvelles, que Coluche avait été agressé. Il était venu au siège du Parti Socialiste, il était reconnu, il avait été agressé. Et Coluche m'appelle vers midi, ce 11 mai, pour me dire, tu sais pas ce qui est arrivé? Il y a deux motards de police qui sont arrivés chez moi, j'ai cru que j'avais fait une connerie encore. Non, non, c'était motards qui m'ont apporté une lettre de François Mitterrand. Une lettre de François Mitterrand, qui venait d'être élu, donc vous imaginez que le 11 mai, il avait peut-être autre chose à faire. Une lettre manuscrite, lui disant qu'il est regretté que Coluche ait été agressé en venant le saluer. Ce qui était, évidemment, ça a ajouté à l'intensité de leur relation.
Dernière chose, vous pensez qu'on mangera quoi dans l'avenir? Parce que c'est aussi ça, une partie de votre travail, c'est d'imaginer, de prévoir l'avenir.
C'est une grande partie de ce livre que d'essayer de le voir. Il y a le pire qui est possible, manger des insectes, si tant est que les insectes vont encore exister, vu la nature qu'on nous prépare, manger des choses totalement artificielles, ou au contraire, et c'est tout à fait possible, retourner à une nourriture saine qui peut exister pour nourrir 10 milliards de personnes sans pesticides, à condition de transformer non pas seulement ce qu'on mange, mais très profondément l'agriculture, l'organisation du travail, l'organisation de la ville. Il faudra manger des choses près de chez soi. Naturellement, ne manger pratiquement plus du tout de viande et manger que des choses qui sont fabriquées localement, le faire aussi soi-même. La nourriture, comme depuis dans l'Antiquité la plus ancienne, nous renvoie à l'essentiel de ce que nous sommes, puisque nous sommes faits de ce que nous mangeons et nous mangeons ce que nous sommes.
Moi, j'ai une petite faim. Vous, j'imagine que non.
Non, pas vraiment, mais je vous laisse. Bon appétit.
Eh bien, je vais aller déjeuner. Merci, Jacques Attali, de nous avoir emmenés en balade avec vous. Je remercie le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation qui se trouve aujourd'hui à la place de l'ancienne École Polytechnique, l'église Saint-Étienne-du-Mont et le père Metzinger, le Panthéon, David Madec qui a répondu aux questions de Jacques Attali, Mines Paris Tech qui était autrefois l'école des mines et le Jardin du Luxembourg pendant que nous y sommes. Je rappelle que Histoire de l'alimentation, le dernier livre de Jacques Attali, est paru chez Fayard. On se retrouve dimanche prochain à 11h. Bon déjeuner, bon dimanche.